RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et un nouveau journal avec Diane Berger.
Vive émotion aux Pays-Bas après les violences jeudi soir contre des supporters de football israélien à Amsterdam. Des actes qualifiés d'attaques antisémites par la maire de la ville. L'État hébreu a lancé des opérations pour rapatrier les près de 2000 Israéliens venus assister au match contre l'Ajax. Et des questions se posent désormais sur la sécurisation de l'événement. L'Iran nie avoir voulu assassiner Donald Trump après l'inculpation aux États-Unis d'un homme soupçonné d'œuvrer pour les gardiens de la Révolution. Nous ferons également le point dans ce journal sur le devenir d'un site d'information complotiste américain qui avait largement soutenu le président républicain en 2016. Et puis on terminera ce tour du monde de l'actualité à Shanghai, à la grande foire internationale de l'importation, où, vous l'entendrez, les entreprises africaines sont bien présentes. Les condamnations sont nombreuses après les violences contre des supporters de football israélien jeudi soir à Amsterdam. Des actes qualifiés d'antisémites par l'État hébreu. Le Premier ministre néerlandais a dénoncé quant à lui des attaques inacceptables. Israël a fait affréter plusieurs avions pour rapatrier les fans du Maccabi Tel Aviv. Les premiers vols sont partis hier des Pays-Bas. Au total, près de 2000 personnes sont concernées. Cela donc après une soirée de violence jeudi, après un match de l'équipe israélienne contre l'Ajax, après déjà des tensions la veille dans les rues de la ville et des incidents recensés des deux côtés par la police néerlandaise. 5 personnes ont dû être hospitalisées, il y a aussi eu 62 interpellations et l'affaire préoccupe la communauté juive des Pays-Bas. Marion Ferrer, l'envoyée spéciale de France Inter, l'a constaté pour RFI.
Joan est l'une des rares habitantes que nous croisons près d'une synagogue. Et en cette soirée de Shabbat hier, les membres de la communauté juive ont préféré rester chez eux. La jeune femme, elle, travaille dans un lieu de culte juif. Dans l'entrebâillement de la porte de l'établissement, elle nous confie son émotion et sa crainte face au climat actuel.
J'ai déjà ressenti la tension, mais une attaque comme celle-là, c'est nouveau. Là, c'est de pire en pire et je me sens très triste.
Ce qui la rassure un peu, ce sont les restrictions mises en place par la maire d'Amsterdam, l'interdiction des manifestations par exemple, ou encore la présence renforcée des policiers.
Ce sont de bonnes restrictions. Je suis reconnaissante parce que certaines choses doivent cesser.
Mais pas question pour Dave Heilbron, représentant de la communauté juive à Amsterdam, de se cacher.
Nous ne devrions jamais avoir peur. Jamais. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous devrions être. Je veux dire, nous avons eu peur il y a 80 ans. Pourquoi aujourd'hui ?
Aucune consigne, nous assure-t-il, n'a été donnée à la communauté juive. Nous allons continuer à porter la kippa et à nous rendre dans nos lieux de prière, conclut-il.
Marion Ferrer, envoyée spéciale de France Inter à Amsterdam pour RFI. Après ces violences, l'heure est à la recherche de responsables. Y a-t-il eu des manquements dans la sécurisation de ce match de football ? Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondante régionale Laxmi Lota. Bonjour.
Bonjour.
La presse des Pays-Bas s'interroge aujourd'hui. Les autorités auraient-elles pu empêcher ces violences ?
La police n'était nulle part, accuse les supporters molestés sur le site d'information nu.nl. Le chef de la police, Peter Ola, parle pourtant d'un déploiement policier d'une ampleur sans précédent par rapport aux normes d'Amsterdam. Mais il avoue, il s'est avéré extrêmement difficile d'agir face à des assaillants prenant la fuite immédiatement à différents endroits de la ville. Sur ce site internet, pas de commentaires possibles de lecteurs concernant l'affaire. La véhémence des discussions rend difficile une bonne modération, peut-on lire. De Telegraph, pour sa part, pointe du doigt la messagerie Telegram. Cette nuit était planifiée sur Telegram, écrit le journal. Des jeunes auraient indiqué prévoir des chasses à l'homme à scooter. On peut aussi lire des réactions politiques dans la presse, celle de la maire d'Amsterdam, Femke Halsema. Dans de Volkskrant, elle indique qu'elle est furieuse. Il s'agit d'une explosion d'antisémitisme telle que nous n'aurions jamais pensé en voir une autre à Amsterdam. On apprend également que le premier ministre Dick Schoof est rentré aux Pays-Bas. Le quotidien AD indique que le ministre de la Justice, David Van Veel, a rencontré son homologue israélien à l'aéroport de Schiphol. Il promet que tous les auteurs seront retrouvés et poursuivis.
Merci beaucoup, Laxmi Lota, pour ces explications. Les autorités israéliennes sont sur le qui-vive concernant des heurts lors d'autres rencontres sportives. Hier soir, un match de basket du Maccabi Tel Aviv s'est déroulé sans incident en Italie, à Bologne. Prochaine échéance sportive sous surveillance, un match France-Israël en football jeudi prochain au Stade de France. Y a-t-il eu un complot iranien contre Donald Trump? L'Iran dément avoir voulu faire assassiner le candidat républicain victorieux à la présidentielle américaine de mardi dernier. Cela alors qu'aux États-Unis, un homme a été inculpé hier, un ressortissant afghan accusé d'être un agent de Téhéran qui aurait recruté des criminels pour tuer le milliardaire. L'élection de Trump, qui évoque forcément les souvenirs de sa première victoire en 2016, à l'époque un site complotiste l'avait largement soutenu. InfoWars, il est aujourd'hui à vendre. L'argent qui en sera retiré doit servir à indemniser les victimes de son propriétaire, le prédicateur d'extrême droite Alex Jones, condamné en 2022 à une amende record de plus $1 milliard. Nathaniel Vitran, au moment où Donald Trump s'apprête à faire son retour à la Maison Blanche, ses opposants et ses partisans ont manifesté leur intérêt.
We're gonna beat these people.
Cet homme qui pleurniche, c'est Alex Jones. N'ayez pas trop pitié de lui. Il a fait fortune en propageant pendant 25 ans des mensonges sur Internet. Il a notamment contribué au harcèlement des familles de l'école primaire de Sandy Hook en prétendant que le massacre de 26 personnes en 2012, dont une vingtaine d'enfants, était une invention. Les familles ont gagné le procès qu'elles lui ont intenté, mais à ce jour n'ont pas reçu un seul centime de dommages et intérêts. Alex Jones a finalement accepté au début de l'été de se placer en faillite personnelle, de vendre son empire des fake news, d'où les larmes de crocodile. La victoire de Trump pourrait toutefois rebattre les cartes.
Your reputation's amazing. I will not let you down.
Votre réputation est excellente. Je ne vous laisserai pas tomber, lui avait promis Donald Trump moins d'un an avant d'être élu. Ses alliés, en tout cas, ne l'ont pas oublié. Roger Stone, ami et conseiller de Trump, condamné à 3 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne de 2016. Roger Stone pourrait racheter InfoWars et laisser Alex Jones aux commandes. À l'inverse, plusieurs patrons de médias progressistes ont aussi exprimé leur intérêt pour, pourquoi pas, transformer InfoWars en outil de lutte contre la désinformation.
La liste des candidats au rachat sera connue mercredi prochain. C'est dans ce contexte de la victoire de Donald Trump que le chef de la diplomatie européenne se rend, lui, à Kiev aujourd'hui. Un déplacement de Josep Borrell pour tenter de rassurer l'Ukraine alors que l'aide de Washington à l'Ukraine pourrait cesser. Le bilan s'alourdit au Pakistan après l'explosion qui a frappé un quai de la principale gare du Baloutchistan. Il est désormais de 22 morts. L'attaque a été revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, l'un des principaux groupes séparatistes de la région. Et puis, en Chine, c'est la grande foire internationale de l'importation à Shanghai. L'occasion pour les pays africains de présenter leur production. Eux aussi comptent sur l'immense marché chinois, Cléa Broderst.
Sur les étals du pavillon du Rwanda, nous retrouvons du miel, du café, des produits artisanaux et du piment, l'une des principales exportations du pays en Chine. Le ministre du Commerce rwandais, Prudence Ebahizi, estime que le marché chinois est extrêmement important et que pour y accéder, son pays doit multiplier les efforts.
Le défi, c'est que si on a un marché ici en Chine, on doit produire la masse. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est la production en masse parce que le marché, c'est très gigantique. Sinon, ça ne sera rien. Par exemple, on avait eu le marché du piment, mais on souffre l'incapacité de production parce que la demande est très grande comparativement à la capacité de production.
C'est tout le sens de sa présence à Shanghai, présenter ce que le Rwanda a à offrir et pouvoir interagir avec les investisseurs potentiels.
Nous pensons à attirer les investisseurs chinois. Donc, ils doivent venir en Afrique faire la production parce que nous importons beaucoup de la Chine. Et si nous voulons équilibrer nos économies avec la Chine, il faut qu'on produise massivement en Afrique.
La question du déséquilibre commercial a été évoquée à multiples reprises lors du forum Chine-Afrique en septembre. Il s'agit aujourd'hui d'aller au bout des promesses pour que les investissements chinois soient mieux alignés sur les priorités de développement des pays impliqués. Cléa Broderst, Shanghai, RFI.
Et puis une disparition dans le monde du football. Rachid Marloufi, l'ancien attaquant de Saint-Étienne, mort à 88 ans. Il était un symbole de la lutte pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI.